Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro et Nicolas Fatman à la technique. Voilà. Comment je peux démarrer cette émission avec ce qui se passe de l'autre côté là-bas de... Ouais, de l'océan. Ouais, je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire. Ah oui, quelle tristesse. Quelle tristesse. Je comprends, les gens sont en colère. Ça hurle avec les loups en même temps. Hurler avec les loups, c'est être en colère, bien sûr. Je comprends, c'est au 21e siècle, et puis en plus en 2022, que quelque chose comme ça se passe encore en Europe. Là, moi, du tout, même dans mes rêves les plus fous, j'ai pas du tout pensé à ça. Dans d'autres coins du monde, oui, je peux comprendre, mais... En Europe, oui. Une partie de l'Europe, bon, je sais pas si la Russie fait partie de l'Europe, savoir. Première partie d'émission, comme tous les jeudis, Myriam Larache va nous parler de sport. Sport, comme j'ai l'habitude de le dire. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Nathalie Parent, psychologue et auteur, qui va nous parler de l'anxiété de performance à l'adolescence. Je dis bien l'anxiété de performance à l'adolescence. Elle est psychologue et auteur. Voilà, restez à l'écoute, on démarre tout de suite en musique, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs, et on commence avec Céline Dion. Courage au peuple ukrainien. On va de l'avant avec ça.
Nous avons tous besoin de courage. Nous avons tous besoin de courage afin de faire face à nos démons et de nous élever. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut vraiment commencer à vivre.
I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. 'Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day. So much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans in conversations that'll never end. In conversations that'll never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Side on my hands, but I won't let you go. There's no replace in the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never end. Don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. 'Cause it's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now. And it's a train wreck, but I'm gonna crash it. Long as your echo never fades out. Courage, Don't you dare fail me now. Cause it's not easy when you're not with me. You swear the madness goes past the night. And it's a train wreck, but I'm a crash. Don't lose your anchor, the perfect time. Don't you dare fail me now.
Céline Dion, Courage. Ça veut dire courage en français, bien sûr. Alors, Myriam est déjà au bout du fil. Elle va nous parler du sport. Voilà, je ne suis pas en émotion. Je ne suis pas en train de hurler avec les loups. Je ne suis pas en colère, mais je suis tout simplement un peu triste, c'est tout, quoi. Avec ce qui se passe sur cette planète. Voilà. Bonjour Myriam Larache.
Bonne fin d'après-midi Fulgence et à tous nos auditeurs bien sûr. Ça va bien?
Oui, ça va, ça va, ça va. Oui. Ça va. Ouais, alors, on peut dire que ça va. Qu'est-ce que tu veux et toi?
Oui, alors effectivement, nous sommes dans une situation exceptionnelle puisque la Russie a déclaré la guerre et l'a enclenchée même hier soir vers les 22-23 heures.
Oui.
Alors évidemment, c'est de ça qu'on parle partout sur la planète, n'est-ce pas? Et aussi, ça a un impact sur le sport dont je vous parlerai plus tard en fin de chronique.
Ok.
Alors, on commence aujourd'hui avec un petit retour sur les Jeux de Pékin qui se sont terminés ce dimanche officiellement avec une cérémonie de...
Oui. Tu nous fais le résumé, quoi.
Je vais surtout mettre en avant quelques moments, quelques prouesses inoubliables.
Les points forts, donc, comme tu le dis, ouais.
Exactement. Alors, on va bien sûr parler de notre Canadien, Michael Kingsbury, qui rentre dans l'histoire. Il devient le premier bosseur de l'histoire à décrocher 3 médailles olympiques en grimpant sur la deuxième marche du podium. On va parler du haïtien inspirant, Richardson Viano, avec une entrée remarquée sur les pentes de Yanking. Le skieur est devenu le premier représentant d'Haïti à participer à des Jeux olympiques d'hiver. C'est formidable.
Oui.
Ça laisse l'espoir au pays chaud.
C'est
domination
ça.
Allemande en glisse. L'Allemagne a décroché l'or, l'argent et le bronze en bob à deux chez les hommes. Donc un triplé au podium. C'est quelque chose.
Oui.
Nous sommes là, les Allemands, c'est ce qu'ils ont signifié. Une médaille historique en saut à ski, bien sûr. L'équipe canadienne, Alexandria Loutit, Matthew Soukop, Abigail Strait et Mackenzie Boyd-Close ont décroché une médaille donc de bronze à l'épreuve mixte, la première médaille olympique dans l'histoire du Canada dans ce sport donc en saut à ski. Également, Maxence Parot retourne sur le podium deux fois le long de ses Jeux après avoir offert au Canada une médaille d'or. Maxence Parot a ajouté une médaille de bronze à sa récolte à l'épreuve du grand saut slopestyle. Et également qui a marqué l'histoire, notamment dans ce mois de l'histoire des Noirs, parce que c'est aussi aux États-Unis, hein, le mois de l'histoire des Noirs, c'est pas juste au Canada.
Oui, oui. Ça a commencé là-bas avant d'arriver chez nous d'ailleurs.
Exact, exact. L'américaine Erin Jackson marque aussi donc l'histoire. Elle devient la première femme noire à être sacrée championne olympique aux 500 mètres en patinage de vitesse courte piste. Parce que bien sûr, c'est dominé par les Occidentaux, par le Canada. Hein? Alors, c'est une première.
Oh, c'est une première, c'est effectivement. C'est pour une Afro-Américaine. Pour une Afro-Américaine, oui. Bon, peut-être. Mm-hmm. Voilà.
Mm-hmm. Incroyable. Mm-hmm. Le missile suédois Nils van der Poel a pulvérisé son propre record du monde aux 10 000 mètres en patinage de vitesse longue piste.
Ça, j'adore. Myriam, j'adore les artistes qui pulvérisent leur propre record.
Ça, c'est formidable. Et attends, les deux records, parce qu'il en avait un autre aux 500 mètres, je pense, ou 3000 mètres, il l'a pulvérisé aussi. Alors,
oui.
Vraiment, le missile, c'est pas pour rien qu'on a dit le missile suédois.
Oui.
Alors, donc au classement général, voilà, j'ai relevé quelques, je peux pas tout vous dire parce que je vous en ai déjà parlé dans les autres émissions. Au classement général, donc le Canada finit 4e rang avec 26 médailles, 4 en or, 8 en argent et 14 en bronze. Vous allez me dire, est-ce mieux que les éditions précédentes? Je vous réponds, le deuxième total de son histoire, c'est au jeu de Vancouver où on a fait mieux. Et on a fait trois de moins de médailles à Pyeongchang où on avait récolté quand même 29. Alors
ouais,
voilà.
Ouais, mais faut pas se voiler la face. Vancouver, c'était chez nous, c'était à domicile.
Oui, voilà.
Ouais.
On avait le droit à un nombre infini de tatouages.
Voilà, d'accord, c'était chez nous, là.
Voilà. Alors, donc, somme toute, les Jeux d'hiver 2022 en Chine se sont bien déroulés sans contamination ni explosion de Covid, avec bien sûr des moments forts, comme je viens de vous le citer, et des histoires de dopage. On va pas revenir sur l'affaire Camila Valieva. Et d'ailleurs, il y en a une autre athlète russe qui est aussi testée positive pendant les Jeux. Donc, c'est en enquête tout ça. Alors, les prochains Jeux, c'est les Paralympiques de Pékin, qui sont bientôt, dans une semaine, du 4 au 13 mars. Je vous en parlerai. Et je veux faire un mea culpa, car la semaine dernière, Fulgence, tu m'as dit, les Jeux d'été, est-ce qu'ils sont plus longs? J'ai dit oui. Mais au fait, c'était un vécu, une émotion vécue, parce que l'été, c'était chevauché sur 2 mois, juillet, août, je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui.
J'avais l'impression, avec tellement d'épreuves, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus long. Mais non, les Jeux olympiques, c'est toujours 2 semaines, partout, quel que soit paralympique, olympique, hiver, été, c'est toujours 2 semaines.
Deux semaines,
je fais mon mea culpa.
Voilà.
Maintenant, oui.
Oui, vas-y.
Alors maintenant, on passe au tennis. Vous savez qu'il y a le tournoi de Dubaï, donc 500 points ATP et l'Acapulco qui se passe en même temps. Ben écoutez, la grosse nouvelle d'aujourd'hui dans le monde du tennis. De retour au jeu, Novak Djokovic s'est incliné en quart de finale aujourd'hui devant le Tchèque Jiří Veselý, 123e raquette mondiale. En 2 confrontations au total, c'est toujours le Tchèque qui prend le dessus sur le Serbe. C'est très rare ça. Hein. Et en conséquence, ben, Daniil Medvedev, s'il gagne son match ce soir, c'est terminé pour Novak. Il ne sera plus le numéro 1 mondial. Il est détrôné et ce sera le Russe lundi matin. Alors, c'est la première fois, Fulgence, depuis 2004, écoute bien, 2004, que la place de numéro 1 mondial de l'ATP échappe à l'un des membres du Big Four, qu'on dit, Djokovic, Federer, Nadal ou Andy Murray. C'est terminé.
Oui.
Je pense, l'air change.
Donc, c'est Medvedev qui a la tête maintenant.
Voilà. Tournoi d'Acapulco, justement, où est Medvedev? Eh bien, hier, Alexander Zverev, l'Allemand, un de mes favoris, numéro 3 mondial quand même, s'est retrouvé exclu du tournoi après un match perdu en double. Il a menacé l'arbitre sur sa flèche, je l'ai vu, genre, c'est horrible, peut-être que tu l'as vu, c'est un buzz.
Non,
je
n'ai pas regardé,
Internet.
Oui, j'ai vu le buzz, mais je ne suis pas allé voir les images.
À coup de raquettes violents, assénées au
pied
de la
chaise. Je vais voir ça cette fin de semaine.
Moi-même, j'étais outrée, je dis, voyons, qu'est-ce qui lui prend?
Il ne va pas bien.
Oui, une enquête plus approfondie de l'ATP est en cours pour possiblement une suspension demandée par plusieurs joueurs hein, de l'Allemand et une amende bien plus salée que celle qu'il a reçue. Sur son compte Instagram, il s'est exprimé. Il a dit « Je présente mes excuses en privé à l'arbitre de chaise et je juge mon propre accès de colère inacceptable, dit-il. Je n'ai pas d'excuses. Je demande pardon à mes fans, au tournoi et à ce sport que j'aime tellement. » Voilà.
Alors, c'est un de mes joueurs préférés, mais on est tous dans la pandémie depuis plus de 2 ans. Bon, ben, c'est pas une raison, hein. C'est pas une excuse.
Je
sais que si c'est comme ça, il va pas bien. Il n'a pas se faire traiter là. Pourquoi il n'arrête pas pour aller voir un spécialiste pour se faire traiter?
Ben, il a une mauvaise gestion de sa colère. Hein. Et d'autant plus, Fulgence, je veux pas juste justifier son geste, mais hier soir était le premier match de l'histoire de l'ATP où il a joué. Son match s'est terminé à lui en simple à 5h du matin. Je ne sais pas si c'est la fatigue qui s'est accumulée, le décalage horaire.
On est tous des humains.
Ça se passe au Mexique.
On est tous des humains.
Alors, voilà. On sait que c'est un homme colérique.
Oui.
Il semblait avoir géré un petit peu ça. Et là, ça s'est exprimé. Est-ce que parce qu'il a dormi quelques heures avant de se présenter à son double? Alors, écoutez, on verra ça.
On verra bien comment il va. Il va se retaper avant de reprendre sa raquette. Quoi. Voilà. Il n'a qu'à aller voir des spécialistes. Là. Il ne va pas bien.
Alors, dans ce même tournoi, ben Daniil Medvedev et Rafael Nadal passent en quart de finale. Ce soir, ils vont jouer donc leur quart de finale. Et Rafael Nadal, qui a dit « Je ne pense pas être désormais, il a annoncé en conférence de presse, pouvoir être encore une fois numéro un mondial. Je ne pourrai jamais succéder à Djokovic. » Hélas, déjà, il ne peut plus. Il est déjà déclassé, Djokovic. « Et ni au Russe, qui va sûrement lui succéder, dit-il. J'ai trop de douleurs, trop d'opérations pour pouvoir continuer sur un rythme et redevenir numéro un mondial. » Voilà.
C'est Nadal qui fait cette déclaration.
Oui, il a fait cette déclaration hier soir en conférence de presse au Mexique, à Acapulco. Alors, au soccer maintenant. On finit le tennis,
oui.
On passe au soccer. Hier soir, le CF Montréal l'a emporté 3-0 face au Santos Laguna du Mexique. Au stade olympique, il fallait y être, Fulgence, à ce qui paraît que c'était la fête. Le CF Montréal passe en quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Ce fut une totale domination. Romel Cuito a marqué à la 9e minute. Jorge Mihailovic à la 22e. Puis Ismaël Koné, qui disputait ses premières minutes dans le cadre d'une toute première titularisation avec le club, a concrétisé à la 61e. Les 13 343 partisans rassemblés dans le Bas-de-Bassin du stade olympique étaient euphoriques. La cloche a sonné pendant 10 minutes, cette notre fameuse cloche.
Oui, alors, oui, voilà. Je peux m'imaginer, parce que ce genre de score, c'est genre, ça, c'est un demi-score fleuve, hein. pour le CF Montréal, ça c'est normal, Montréal, c'est normal, 3-1, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas battu une équipe comme ça avec ce score-là.
Oui, puis à ce qui paraît que c'était leur cauchemar un peu, parce qu'ils les ont déjà éliminés en 2009 pour participer à une finale donc de la CONCACAF. Ouais. Alors c'était un peu une petite vengeance.
J'espère que le Canadien va nous faire sourire comme ça et de ces jours.
Oui. Ouais. Ça commence à bien aller pour eux, mais bon, on va pas trop en parler.
Ah non.
On va pas leur porter la poisse. En MLS, sachez que ceux qui suivent bien donc le CF Montréal, il entamera sa saison ce dimanche à 13h face à l'Orlando City en Floride. Donc, ils ont déjà dû prendre l'avion pour aller s'acclimater à la chaleur de la Floride.
Oui.
Et toujours au soccer, l'équipe, ton équipe que tu aimes beaucoup, féminine, canadienne.
Oui.
Le Canada, hélas, s'est incliné hier 1-0 face à l'Espagne. En Espagne même, pour une chance d'avoir la Coupe Arnold Clark. Donc, le but de Alexia Putellas. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais j'en avais parlé. Elle a gagné lauréate du Ballon d'Or, meilleure joueuse féminine de la FIFA et de l'UEFA.
Oui.
Elle joue au FC Barcelone. Eh ben, elle a marqué le but gagnant. Elle a donné la victoire aux Espagnols. Une victoire. Le Canada était classé 6e. S'il avait gagné ce match, il aurait pu soulever la coupe. Écoute, malheureusement, c'est ce qui est passé.
Myriam, on n'a pas notre grande gardienne de but là. Elle a pris sa retraite. Oui, elle n'est plus là. Il faut lui trouver... une remplaçante qui pourrait jouer ce rôle qu'elle a joué durant toutes les compétitions qu'elles ont gagnées.
Ça va être difficile de trouver ce calibre-là. Mmh. Alors, ce sont les Anglaises qui en plus ont gagné leur match. Donc, du coup, le Canada arrive 3e dans cette Coupe Clark. Et c'est elles qui ont soulevé les Anglaises, la Coupe. Alors, maintenant, je passe à ce sujet donc qui est mondial en ce moment. Donc, la guerre en Ukraine et le monde du sport. Eh ben, déclenchée hier soir par Moscou, elle a non seulement un impact humain, social, économique, mais aussi donc dans le monde sportif. Sous le choc, les organisations de plusieurs disciplines envisagent déjà des annulations d'événements. Par exemple, l'UEFA a condamné fermement l'invasion militaire russe. La finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg en mai pourrait être donc déplacée.
Oui, il y a quatre équipes françaises et anglaises qui y participent. Ils ne vont pas se déplacer là-bas, les Anglais, quand même.
Ils ne vont pas se déplacer. Puis il y a aussi... Figure-toi, les matchs de barrage du Mondial Soccer 22 pour trois pays qui se passent là aussi, la Pologne, la Suède et les Tchèques ont demandé à jouer ailleurs qu'en Russie.
C'est normal. Oui, faut pas leur donner cette vitrine.
Bien sûr. Les champions du monde de Formule 1, Max Verstappen et Sébastien Vettel, ne se voient pas non plus participer au Grand Prix de Russie qui pourtant est un peu loin, c'est en septembre. Ils disent déjà qu'on ne veut pas y participer.
Oui.
Le tennisman russe, un russe qui s'exprime, André Rublev, a plaidé aujourd'hui pour la paix. Il est à Acapulco après sa victoire en quart de finale à Dubaï, qui n'était pas important, dit-il, ma victoire aujourd'hui, au vu du terrible contexte qui se passe dans mon pays.
C'est vrai.
Alors, et la joueuse de tennis, l'Ukrainienne, celle qui a vraiment droit à la grande parole aujourd'hui, Elina Svitolina,
oui,
a clamé sur Instagram « Gloire à l'Ukraine, vive l'Ukraine ». Voilà. Alors, je finis sur cette note un peu triste, honnête pour le monde. Et qu'on va continuer à suivre de près, Fulgence, parce que j'espère que ça ne va pas s'aggraver.
On espère que la folie fasse arrêter, quoi. Enfin, c'est ouf.
Voilà.
Quoi. Voilà, merci beaucoup, Myriam. Bonne soirée à toi, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Ouais.
Au revoir.
Au revoir. Maria. Do
cause you know me like it like that. Down there, me fall in love with the thing down there. You grip me with the tightest thing down there. What I run for me, I when me reach down there. Me fall in love, so girl, give me liquor, give me liquor, give me liquor, give me liquor. One girl can bad like that. Girl, me must talk. Me can't stay silent. I just had to expose your file, yeah. Girl, you is problem.
J'aime ce rythme. Ouais, ça c'est bien. Bozy, Boysy, c'est Down Day. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, je vais revenir sur le mois de l'histoire des Noirs qui continue jusqu'à la fin du mois de février, jusqu'au 28 février. Aujourd'hui, c'est le 24, donc il y a encore 4 jours. Quoi. Il y a 4 journées, 7 fins de semaine. Bon, il y a demain, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, bon, ben, ceux qui n'ont pas encore vu des événements, allez-y sur le site du mois de l'histoire des Noirs. Vous allez découvrir toute la programmation là-bas. Ça vous permettra d'aller voir des choses que vous aimeriez bien voir. Connaître un peu, découvrir un peu l'histoire des Noirs, voilà. Il ne s'agit pas de se demander, bon ben, pourquoi le mois de février est réservé aux Noirs. Non, ça ne veut pas dire que les autres arrêtent de vivre. Non, 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 ça continue, mais c'est un clin d'œil à l'histoire. C'est tout, simplement. Voilà, c'est comme ça. On se dit que de temps en temps, et depuis que ça a commencé, même si je n'ai pas des invités tout le temps, parce que j'avais reçu la porte-parole francophone ici, Chafranc qui est venu parler de ça, et puis bon, ben, le président de la table ronde, Michael Farkas, qui est venu parler de ça aussi. Donc, ben, allez-y sur le site là-bas pour que vous puissiez découvrir toute la programmation et aller découvrir certains beaux événements qui se passent la plupart du temps en ligne. Voilà, les Canadiens noirs et leur communauté ont contribué aussi à façonner le patrimoine et l'identité du Canada depuis. Voilà, depuis belle lurette, quoi. Hein, depuis les années 1600. Alors, c'est comme ça. Il y a le cabaret de diversité. Ça, c'est pour la 31e édition du mois de l'histoire des Noirs. Alors, est-ce que vous voulez voir musique tout de suite? Voilà, pour terminer cette première partie de l'émission, afin que je puisse recevoir une deuxième partie d'émission, notre invitée Nathalie Parent, qui est psychologue et auteure, qui vient nous parler de l'anxiété de performance à l'adolescence. Allez, on termine avec qui? Avec Hélène. Pas Hélène, mais Allen. Work good.
Yeah. I will remember you. You're gone away. An angel in the sky now. And I shine my light up for you. For you. Hey, don't want to say. Don't wanna say goodbye now. That is something I just can't do, won't do. So I'm gonna say, one good my friend, till I see you again. Hear me say, I will remember you. Gonna say, you'll always be in my memories. Hear me say, I will remember.
is your bug, you're not me. You are more than my friend, you are my family. I'm a love, love, love you, I miss you. I can't describe how I wish you were still here.
Voilà, c'est la fin de la première partie de l'émission. Après la petite pause publicitaire et puis la première pièce musicale, je vais recevoir Nathalie Parent qui vient nous parler. Nathalie Parent qui est psychologue et auteure de plusieurs livres d'ailleurs, qui vient nous parler de l'anxiété de performance à l'adolescence. Tout nouveau, frais, son livre. Voilà, et restez à l'écoute, n'allez pas loin, parce que ça continue. Si vous voulez en savoir plus pour vos adolescents et puis pour les adolescents qui nous écoutent, c'est juste après la pause et la première pièce musicale. A tout de suite.
Bonjour à toutes et tous.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Comme ça, toi, t'arrives sans me le demander. Quelque part dans ma vie, comme si t'allais changer et me faire oublier le peu mes soucis. Tu m'as amené dans un autre univers pour me faire danser tout au long de l'hiver. Quand tu me donnes rendez-vous, c'est pas juste un something else to do. Que tu sois mienne.
que tu sois mienne.
Charles Landry, Calumet, voilà. Alors j'attends son prochain album pour passer d'un bec de ce nouvel album qu'il est en train de préparer. J'espère qu'il va bien, Charles Landry. On a notre invité déjà au bout du fil, Nathalie Parent, qui est psychologue et auteure de plusieurs livres. Elle pratique la psychothérapie auprès des enfants, des adolescents, des adultes, des couples et des familles. Elle offre également des conférences et des formations depuis de nombreuses années sur différents sujets touchant l'enfance et la famille. La communication et les relations, le stress et l'anxiété, la gestion des émotions ainsi que le bien-être physique et psychologique. Elle est là pour nous parler de l'anxiété de performance à l'adolescence. Ah, j'ai appris des choses dans ce livre-là, sincèrement. Bonjour Nathalie Parent.
Bonjour.
Merci de nous faire découvrir quelques facettes de l'anxiété de performance à l'adolescence. Mais l'anxiété chez les adolescents. Surtout quand il s'agit de performance. Qu'est-ce que c'est? En gros, quand vous dites l'anxiété de la performance à l'adolescence, qu'est-ce qui fait que les adolescents veulent toujours performer? C'est en se comparant aux autres? Ou bien quoi? Qu'est-ce qui les pousse à cette histoire d'anxiété de performance?
Ben, en fait, c'est multifactoriel. Hein? Il n'y a pas qu'une chose, il n'y a pas qu'un élément. Puis chaque personne, moi, qui arrive, par exemple, dans mon bureau, chaque personne que je rencontre qui vont faire de l'anxiété de performance, ben, c'est toujours quelque chose quand même de nouveau parce que chaque personne est différente. Elle arrive avec son histoire. Oui. Donc, il y a plusieurs facteurs. Mais disons que l'anxiété de performance, c'est aussi une façon, là, c'est quelque chose qui touche les adolescents, mais qui touche principalement dans les sphères où est-ce qu'on est évalué, où est-ce qu'on a à recevoir une note, donc oui. Que ce soit à l'école ou dans une compétition sportive ou encore quand on a à faire une prestation musicale, ben c'est dans ces moments-là qu'il y a de l'anxiété. Puis il y a différentes façons de réagir, mais ça peut être, par exemple, le jeune qui appréhende une mauvaise note alors qu'il a toujours des bonnes notes, mais lui, ce qu'il pousse à vouloir, à être anxieux en fait face à la performance, c'est qu'il veut avoir, par exemple, la meilleure note ou avoir une note parfaite, alors que d'autres, l'anxiété va venir dans un moment où, ils ont un sentiment qu'ils sont pas capables, qu'ils sont pas compétents, par exemple, qu'ils sont pas à la hauteur et ils vont avoir beau étudier et ils arrivent à l'examen et en perdent leurs moyens parce que l'anxiété prend toute la place. Donc, il y a vraiment deux extrêmes. Du côté, celui qui va en faire trop pour étudier, par exemple, puis l'autre qui va procrastiner ou en faire beaucoup, mais perdre ses moyens et arriver lors de l'examen, par exemple.
Donc, à l'adolescence, on ne peut pas échapper à ça, parce qu'il y a toujours un problème de concurrence là-bas, du jugement.
Oui, mais c'est vrai que la comparaison fait partie du développement identitaire, hein, quand on grandit, puis même à l'âge adulte, la comparaison, il y en a tout le temps. Hein,
oui, moi, oui.
J'aime
oui.
bien dire.
Malheureusement.
Oui, les réseaux sociaux, ça ne nous aide pas non plus dans cette comparaison-là, puis dans les compétitions. Mmh. Mais il faut se rappeler que, oui, ça fait partie de la vie quand on se compare. Ça fait partie de l'être humain. Mais il faut se ramener. Quand on se compare, on se ramène, OK? Dans le sens que, bon, si on voit une photo ou quelqu'un qui poste une réussite sur Facebook ou un autre média social, ben, faut se rappeler que peut-être que cette personne-là n'a pas mis tous les efforts ou même les échecs qu'elle a pu vivre avant d'arriver là. Donc, faut se ramener à soi. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon besoin? Mmh.
C'est ce que d'ailleurs, pour compléter ce que vous venez de dire, j'ai dit, moi, même étant adulte, étant adolescent, je ne me voyais pas en concurrence avec les autres, je me voyais en concurrence avec moi-même. Qu'est-ce que je pourrais perfectionner chez moi personnellement pour aller de l'avant?
Oui, mais ça, c'est une bonne idée, dans le sens que être perfectionniste, c'est pas mauvais. Il faut juste savoir s'améliorer, c'est sain, mais il faut savoir se mettre aussi des limites, puis s'établir aussi des attentes qui sont réalistes. Parfois, à l'adolescence, on n'est pas réaliste dans nos attentes. Hein. On peut se demander énormément, puis ça ne tient pas compte de ce qu'on peut vivre ou de la capacité qu'on a à ce moment-là.
Oui. Wow. C'est ce livre-là, quand je l'ai lu rapidement, hein. Moi je l'appelle ça livre de poche, il se lit très facilement, très bien d'ailleurs, et puis vous avez tellement su, comment dirais-je, banaliser avec des mots simples, des phrases simples, pour celui qui a ce livre entre les mains, qui est là, qui dit waouh, ouais, merci. Merci à Nathalie Parent, qui est psychologue, elle n'est pas juste auteur, qui est psychologue, donc vous comprenez beaucoup plus nos problèmes. Je dis non, parce que je suis aussi un humain qui peut demain avoir de l'anxiété. Voilà, les problèmes, pour l'instant, on parle des adolescents, parce que vous en rencontrez dans votre pratique. Et quand ils arrivent d'abord, dans un premier temps, comment est-ce que vous arrivez à les calmer pour leur dire quelles sont les directions à prendre pour éviter de ne pas tomber tout le temps d'anxiété quand ils ont un examen ou bien un problème, quelque chose à faire ou bien un examen? Comment vous arrivez à les mettre sur la bonne voie?
Oui, ben c'est sûr que c'est variable selon une personne à l'autre, mais d'entrée de jeu, souvent on fait l'histoire, hein, on regarde l'histoire de la personne, d'où elle part, depuis quand, c'est là aussi son anxiété. Mm-hmm. Est-ce que ça part d'un événement en particulier? Est-ce que ça part aussi d'une multitude d'échecs qui a été là? Donc, il faut, des fois, c'est comme suite à un traumatisme ou à un événement très stressant. Donc, on va essayer de voir l'ensemble de la situation, puis on va regarder c'est quoi ses pensées, hein, quelles sont ses pensées. Des fois, les jeunes sont dans des pensées tout ou rien, hein, c'est-à-dire si je n'ai pas 98%, je suis nulle.
Oui.
Bon, alors, si on va essayer, ou encore, et ils vont se projeter dans le temps, ils vont dire, ben si je n'ai pas un résultat comme ça, je ne pourrai jamais rentrer dans mon programme que je veux à l'université. Donc là, on va essayer de relativiser. C'est pas une note qui va amener que la personne va rentrer à l'université. Puis on peut avoir plein de chemins qui nous amènent là où on veut aller aussi. Mm-hmm. Des fois, on a aussi des deuils à vivre, dans le sens que parfois, on se rend compte que, par exemple, les sciences ou les maths fortes, c'est pas fait pour nous.
Oui.
Il y aura des deuils à vivre, peut-être pour certains. D'autres, ça va être de trouver des plans B, d'autres chemins à suivre pour arriver là où ils veulent arriver.
Oui.
Mais hein, vous disiez tantôt par rapport à mon livre Vic, c'est vraiment écrit comme si c'était un adolescent qui s'adressait aux adolescents. Hein?
C'est ce que je me suis rendu compte quand, au fur et à mesure que je le parcourais, j'y allais, j'ai dit, mais waouh! vous avez su banaliser, vous avez donné simplicité à ce livre.
Eh bien, l'idée, c'était vraiment un peu comme le premier livre, Alex, qui, lui, ça touchait plus l'anxiété en général.
Oui.
C'est des livres comme la collection perso là, des éditions Midi 30. C'est une collection qui est écrite pour que le jeune lecteur puisse s'identifier au personnage. Mm-hmm. Parce que à l'adolescence, on veut un peu se décoller de l'adulte où on veut faire nos expériences, puis la gang d'amis prend de l'importance.
C'est ça, c'est
donc,
ça.
C'est un peu l'idée de que le jeune puisse s'identifier, se voir aussi à travers ce personnage-là.
C'est ça.
Comme plusieurs autres, là, hein. Vic, dans le livre, amène différents amis qui ont vécu ci ou ça en lien avec l'anxiété de performance. Donc, ça amène des points de repère différents, puis ils peuvent trouver leur solution à travers ce qui est exprimé dans le livre.
Oui, oui, oui. L'anxiété de performance, une drôle de bibitte.
Vic, ah oui.
On fait une petite pause musicale et puis je vous reviens.
Très bien.
Merci, à tout à l'heure. Oui, notre invitée, toujours avec nous au bout du fil, Nathalie Parent, psychologue et auteure de plusieurs livres qui nous parlent de l'anxiété de performance à l'adolescence. C'est un état de malaise et de tension interne causé par la peur de l'échec ou l'anticipation d'un malheur en contexte particulier lors d'une évaluation, elle a déjà expliqué, d'une performance ou d'une prestation. Elle peut entraîner une grande souffrance et prendre beaucoup trop de place dans la vie de la personne. C'est tellement vrai ce qui est là, ce que je viens de lire de votre livre.
Mmh.
Ouais.
Oui, hein, c'est vrai que ça amène une détresse, hein, une souffrance. L'anxiété fait partie du développement de la personne, fait partie des moments de la vie. Là. Par exemple, quand on a même nous comme adultes à l'approche d'un examen médical, on peut vivre une appréhension, être anxieux face à une maladie. Ben, quand il arrive des événements, puis l'adolescence, c'est une période où on est plus vulnérable à vivre des moments d'anxiété parce que le jeune est en construction quand même. Hein, et on sait que le cerveau, entre autres, avec toutes les hormones, est comme en réorganisation. Donc, il suffit qu'on aide, que les jeunes vivent des moments de stress particuliers. Bon, par exemple, un déménagement, une séparation, des conflits, de l'intimidation.
Oui.
Oups, on vient de le plonger encore plus dans une certaine anxiété. Donc, pour regarder l'ensemble de la situation, hein, qu'est-ce qu'il vit le jeune, pour décortiquer un peu son anxiété. Donc, c'est vraiment une période de plus fragile à ça, plus sensible. Puis là, avec la période de la pandémie, disons que les repères qu'ils avaient face à la continuité de l'école, là, il y a eu des arrêts, de la télé-école. Donc, ça aussi, ça amène vraiment un décalage pour certains. Hein.
Oui.
Certains jeunes, moi, j'ai entendu dire des enseignants, entre autres, qui trouvent que il y a vraiment un décalage entre certains jeunes ou entre certaines cohortes. Hein. Arrive, par exemple, quelqu'un qui est habitué d'enseigner à tel niveau, mettons secondaire 2, ben il trouve que cette année, mon Dieu, les jeunes, on dirait qu'ils en savent un peu moins ou sont pas comme les autres cohortes. Ben non, c'est sûr. Il y a eu toute une période comme d'absence d'école. Donc ça, c'est pas à négliger. Il faut pas banaliser, mais il faut normaliser que les jeunes, on peut pas s'en demander autant. Il faut se donner du temps pour récupérer là où il y a eu un arrêt. Hein?
Oui. Et puis quand je vois un peu à la page 48 du livre, par exemple, le besoin de sécurité, par exemple la stabilité, la sécurité financière, et puis la santé, ensuite la sécurité émotionnelle, tout ça. Oui. Il est rassurant de vivre dans un milieu où une famille stable et d'avoir une routine prévisible. Mon ami Max m'a raconté qu'il vivait beaucoup d'insécurité quand ses parents se chicanaient. Ça joue beaucoup sur les enfants aussi et les adolescents.
Oui, absolument. Quand c'est un peu ça, hein, l'anxiété, souvent il y a un sentiment de menace. Et donc, si on ajoute à ça des conflits, par exemple, avec les parents, il peut avoir un sentiment de menace de la séparation. Puis les jeunes savent bien qu'est-ce qui arrive après. Hein. Bon, il y en a d'autres amis dont les parents sont séparés. Donc, puis des fois, il y en a qui sont pas à la première séparation. Là, hein. Les parents ils peuvent avoir été séparés, recomposés, tout ça.
Oui.
Donc, ça amène une insécurité. Je dis pas qu'il faut pas se séparer, là. Ça arrive quand même.
Non, c'est pas le conseil que vous donnez. Non, c'est pas ça.
Il faut être conscient que ça peut avoir un impact là, sur l'anxiété que le jeune peut vivre.
Oui. Mm. Ouais. Et puis, il y a un gros point là aussi, vous avez mis le doigt, la sécurité financière.
Mais oui, avec la période de la COVID aussi, hein, ça n'a pas été simple pour certaines familles aussi.
Oui.
L'insécurité, qu'est-ce qui va arriver, comment on va vivre. Là, on sent qu'on s'en sort graduellement, là, ça va mieux. Mais pour plusieurs, je pense à tous ceux qui travaillaient dans les restaurants, même pour les jeunes eux-mêmes, il y a eu des ados là, qui travaillaient dans les restaurants puis qui n'ont pas pu avoir ils n'ont pu vivre une certaine insécurité de par le fait de ne pas avoir pu travailler.
Oui.
Donc, je trouve qu'il faut penser parfois à la base, hein, quand un jeune vit de l'anxiété, qu'est-ce qu'il vit? Bon, ne serait-ce que juste son alimentation, est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il mange tout court? Hein? Il y en a qui mangent très peu.
Oui.
Même avec le sommeil aussi, le sommeil change à l'adolescence.
C'est ça.
Mais faut voir comment il peut récupérer, là, avoir des temps où il peut récupérer de son sommeil perdu ou encore avec les écrans.
Ouais,
les écrans, ça vient jouer pour beaucoup, les écrans, là.
Oui, sans compter la santé. Quand on reçoit un diagnostic qui met dans un état vraiment diagnostique quand on annonce une maladie grave, quelque chose comme ça de ce genre. Et puis, non, tout ce que j'ai parcouru dans ce livre qui m'a servi de. Quand je l'ai reçu, livre de poche, j'étais tout dans mon sac d'ailleurs. Ainsi, la peur d'avoir honte ou d'être ridiculisé devant les autres peut aussi amener de l'anxiété de performance pour éviter la honte devant ses amis, devant les autres.
Oui.
Et ceux-là, ils n'ont pas la conscience de savoir qu'ils ne vivent pas pour les autres, qu'ils vivent pour eux-mêmes. Alors, parce qu'ils sont toujours en clique, en groupe.
Oui. Ben. On fait juste penser aussi à ceux qui arrivent en secondaire 1 puis qui ont à faire des exposés oraux.
Oui.
Puis là, ils sont dans des groupes où est-ce qu'ils connaissent peu de gens. Hein, plusieurs s'en vont dans des écoles différentes quand ils quittent le primaire pour aller au secondaire.
Oui.
Alors ils arrivent dans des classes où ils connaissent à peu près pas personne. Bon, avec le masque, ça a été difficile de se faire des amis aussi, ou en tout cas, c'est une autre façon d'approcher les gens.
Mm-hmm.
Donc là, ils arrivent en classe, puis ils doivent faire un exposé oral. C'est pas simple, hein?
C'est pas simple, oui.
Ah non, l'anxiété peut prendre beaucoup de place dans ce temps-là.
Mm-hmm.
Je pense qu'il faut les aider, en ce sens-là, à apprivoiser graduellement là, les exposés oraux.
Mm-hmm.
Il y a quelqu'un qui me racontait en enseignement qu'elle avait accompagné un jeune à lui montrer, à l'aider à faire des présentations orales.
Mmh.
Et son niveau d'anxiété a diminué énormément.
Wow.
Puis il était prêt là, à aller faire une exposé orale. Donc, il faut les accompagner, il faut les aider.
À propos, je prends la balle au bon, à propos d'accompagner, quelles sont les ressources qui sont mises à leur disposition ou bien qu'est-ce que vous leur conseillez comme ressources? Il nous reste une minute pour qu'on puisse passer à autre chose, parce que je pense bien que c'est pas votre dernier livre qui s'adresse uniquement aux adolescents, parce que je pense qu'il y a plein d'autres choses encore que vous pourriez dire. Allez-y, je vous laisse parler.
Effectivement, il y a plein de choses à dire. Mais je pense que d'abord et avant tout, il faut oser le dire. Il faut oser dire qu'ils ont peur, qu'ils sont anxieux.
Oui.
Déjà, ça, c'est un premier pas.
Mm-hmm.
Le dire à quelqu'un de confiance, donc des fois, c'est aux parents.
Oui.
Mais ça peut être aussi à l'enseignant. Ça peut être, il y a des ressources dans les écoles pour écouter, hein, pour supporter, pour accompagner les jeunes qui vivent l'anxiété.
Oui.
Il y a des ressources aussi au CLSC, que ce soit des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs.
Oui.
Et les psychoéducateurs, les éducateurs spécialisés peuvent aussi accompagner là, au privé des jeunes pour les aider à diminuer cette anxiété-là face à, par exemple, dans l'étude à faire ou dans les exposés ou dans des compétitions sportives.
Mmh.
Il y a des psychologues aussi sportifs qui peuvent les accompagner, mais ces temps-ci, les ressources comme psychologue, c'est difficile.
C'est difficile.
Donc,
avec la pandémie, oui.
Oui, il y a d'autres spécialistes là, qui peuvent les accompagner. Comme je disais, les psychoéducateurs, éducateurs spécialisés peuvent faire un bon travail là-dessus, à donner des bons trucs pour les soutenir là, dans leur anxiété,
merci.
Dans leurs études.
Merci beaucoup, oui. Nathalie Parent, psychologue et auteure de plusieurs livres d'ailleurs, mais celui que j'en mets ici, c'est Vic, l'anxiété de performance à l'adolescence, aux éditions Midi 30. J'aime bien ça, c'est le nom de la maison d'édition, Midi 30. Merci beaucoup à vous, Nathalie Parent.
Merci.
Et au plaisir avec un autre bouquin, un autre livre.
Ben, peut-être.
Bonne soirée à vous, au revoir.
Bonne soirée, merci.
Au revoir. ouais, ça c'était Kazen Junberg, Hunt at Pent Road. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine, le lundi. Voilà. Bonne fin de semaine à toi. Et on dit merci à Myriam Larache qui est venue nous remplir les oreilles, la tête avec l'actualité sportive. Et merci à notre invitée Nathalie Parent qui est venue parler de son livre. Voilà, Vic, l'anxiété de performance à l'adolescence aux éditions Midi 30. Alors, je vous dis merci, chers auditeurs, auditrices, de votre fidélité. On se retrouve demain, oui, pour la dernière de la semaine. Faites escale chez nous, tous les jours de l'année au vendredi en semaine. Et sur ce, je vous dis ciao. Prenez soin de vos minutes.